Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Prenez vos Bibles et ouvrez-les avec moi dans le merveilleux Évangile selon Matthieu. Nous commencerons dans ce merveilleux livre ce soir. Nous allons vivre une aventure, braves gens, dans les mois et les années à venir, tandis que nous partagerons ce formidable livre. J'aimerais juste vous donner un petit rappel, et je ne passerai pas beaucoup de temps à fournir un aperçu de ce livre. Je ne passerai pas beaucoup de temps à vous parler de tous les thèmes qui sont abordés dans ce livre. La raison, c'est que je ne l'ai pas encore vraiment étudié, et que je ne veux pas tirer de conclusion avant de l'avoir fait. Ainsi donc, quand nous aurons terminé de l'étudier ensemble, nous retournerons et nous résumerons toutes les parties et ressortirons ensemble tous les thèmes et sujets qu'il aborde. Nous ferons cela en utilisant la méthode inductive plutôt que la méthode déductive. Ainsi, nous allons tout simplement commencer par étudier la première partie. Nous allons directement parcourir ce merveilleux livre de 28 chapitres et voir ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire. Pour démarrer, laissez-moi un tout petit peu introduire le sujet et le livre. Au moment de la naissance du Christ, Israël était sous la domination romaine, comme vous le savez. Plusieurs choses sous la domination de Rome étaient oppressives pour Israël. L'un des aspects oppressifs de Rome était l'écrasant système d'imposition. C'était un système cruel. Il était implacable et très systématique. Rome exigeait de très grosses taxes de chacune des nations qu'elle avait conquises. Deux types d'impôts en particulier étaient prélevés. L'un était la capitation, qu'on peut fondamentalement comparer à notre impôt sur le revenu. L'autre était appelé taxe foncière, qui est une espèce de taxe sur la propriété ou sur un terrain. Et c'est intéressant de voir comment cela fonctionnait. Les sénateurs romains, qui étaient très riches dans la ville de Rome, ainsi que des magistrats très riches aussi et proéminents dans la société romaine, avaient la latitude d'acheter aux enchères publiques les recettes d'un pays donné, à un prix déterminé, puis conserver ses revenus pendant 5 ans. En d'autres termes, une sorte de coalition de sénateurs riches romains achetait le droit qu'avait le gouvernement romain de prélever les impôts sur la nation d'Israël, pour une période de 5 ans. C'était donc à eux d'en tirer autant qu'ils pouvaient. On les appelait des publicani, et ils embauchaient des esclaves et des ressortissants de la nation dont ils avaient reçu la permission d'exiger des impôts. Ils embauchaient ces gens pour effectivement collecter les impôts. Par conséquent, ce que vous aviez alors était ces individus qui collectaient les impôts pour donner aux riches sénateurs qui avaient acquis auprès du gouvernement romain le droit à tout l'argent qu'ils pouvaient exiger du peuple. Maintenant, ces personnes, comme je l'ai dit, dans les cercles riches, étaient appelées les publicani et les autres. Celles qui collectaient les impôts sont celles que nous connaissons dans le Nouveau Testament comme publicains. Les publicains, et non les républicains, sont aussi appelés des collecteurs d'impôts. Et bien entendu, les habitants du pays les considéraient comme des traîtres, parce qu'alors, ils collectaient les impôts auprès de leurs propres compatriotes pour les remettre à une nation étrangère. Ils étaient vus comme des traîtres, qui escroquaient en faveur des riches capitalistes romains, dépositaires des droits. Et puis, il y avait une autre arnaque que le collecteur d'impôts lui-même faisait pour s'en mettre plein les poches, comme dans l'exemple classique de l'homme qu'on appelait Zachée. Maintenant, les collecteurs d'impôts, ou publicains, comme le Nouveau Testament les appelle, étaient mis au même rang que les prostituées. Ils étaient classés parmi les païens. Ils étaient considérés comme des bandits, des voleurs et des meurtriers. Ils n'avaient donc pas une très bonne réputation. Pour aggraver les choses, autour de l'an 33 après Jésus-Christ, il y a eu une grande crise financière à Rome. Et en raison de cette grande crise financière, Rome a exigé des impôts encore plus lourds des nations sous son emprise, ce qui a créé un problème encore plus grave en Israël à cette époque. Cependant, l'un de ces publicains qui travaillait pour une riche coalition de sénateurs romains, ayant acquis le droit d'imposition sur Israël, était un homme du nom de Matthieu Lévi. Matthieu ou Lévi Si vous regardez avec moi un instant au chapitre 9 de Matthieu et au verset 8, je vous le présenterai selon sa chronologie dans l'histoire de la vie de Jésus. Matthieu 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. C'est ici notre première rencontre avec Matthieu, le collecteur d'impôts. Pour commencer, c'est vraiment une chose étonnante que Jésus ait eu affaire avec un tel homme, un homme qui était connu dans sa société, au moins du fait de la désignation générale de sa profession particulière, comme un escroc et un criminel. Cependant, Jésus lui dit, « Suis-moi. » Et il s'est levé et l'a suivi, n'est-ce pas? Il s'est levé de la table d'où il collectait ses impôts. Certains ont dit, et je suis certain que cela est vrai, que seul Jésus était capable d'opérer une transformation telle qu'un publicain soit devenu un apôtre, et ainsi a été le miracle de Matthieu, qui est donc devenu l'auteur du tout premier évangile enregistré. Il n'existe qu'un évangile, à vrai dire, uniquement un évangile. Seulement 4 écrivains différents l'ont enregistré. Un seul évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, constitue un seul message. Il y a cependant 4 évangiles que nous appelons les évangiles d'après l'histoire, bien qu'il s'agisse de 4 auteurs écrivant sur un évangile. Et ce que je trouve intéressant, c'est que nous ne voulons pas nous montrer injustes. Et on n'a pas forcément envie de condamner un homme parce qu'il exerçait une profession pourrie. Il peut tout de même arriver qu'on trouve un homme de bien dans une mauvaise entreprise. Et peut-être bien que c'était le cas de Matthieu. Du moins, Jésus a-t-il vu quelque chose d'utile en lui? Lorsque Jésus lui a parlé, il l'a immédiatement suivi. Ce qui nous amène à penser qu'il était peut-être très familier de Jésus. Peut-être avait-il entendu parler de Jésus, ou l'avait-il vu à une autre occasion. Il aurait pu être un homme religieux. Il se peut qu'il ait été un homme plutôt honnête. Il ne semble pas avoir eu besoin d'exiger une rétribution de la part des gens, comme le faisait Zachée. Il était donc peut-être très, très équitable. Il ne semble apparemment pas éprouver le besoin de repartir restituer tout ce qu'il aurait pris à tort. Jésus a attiré cet homme dans un étonnant cercle interne de 12 personnes. En fait, il y a eu 12 peuples dans l'histoire du monde. Et je pense qu'il est important de s'en rappeler. Il y a eu dans l'histoire du monde 12 personnes qui ont entretenu avec Dieu le genre de relation que Matthieu et les 11 autres apôtres avaient. Et seulement 12. Une relation merveilleuse, incroyable, unique, dans laquelle ils ont marché avec le Dieu de l'univers lui-même, en chair et en os, pendant une période de 3 ans. Ainsi donc, Dieu, dans la personne du Christ, a appelé cet homme dans son cercle intime. Il devait être un homme qui méritait d'être appelé. Je pense également que le fait qu'il se soit mobilisé immédiatement donne une idée de la situation de son cœur. Maintenant, l'homme possédait sans aucun doute beaucoup de richesses, beaucoup de pouvoirs, et il était cependant disposé à les abandonner, ce qui en dit long sur son caractère. En fait, il a même fait un pas en avant. Regardez au verset 10. C'est le plus intéressant. Il a donné une espèce de fête. Il est dit, « Comme Jésus était à table dans la maison, il s'agit sans aucun doute de la maison de Matthieu. Voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui. » Et avec ses disciples, voici à présent toute une foule de ces gens. Les collecteurs d'impôts et les pêcheurs marchaient essentiellement ensemble. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » C'était une affirmation sarcastique. Il était en train de dire, « Vous n'avez fait aucun usage de moi, parce que vous vous croyez saint. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler des justes, comme vous, sur un ton sarcastique, mais des pécheurs, à la repentance. Quel est le cadre ici? Et c'est vraiment tout ce que nous voulons savoir. Apparemment, quand Matthieu a pris la résolution de suivre Jésus, il a décidé de donner une grande fête. Et l'idée de cette grande fête consistait à présenter ses anciens amis à son nouveau maître. Et il l'a fait. Je pense donc que Matthieu devait être un homme de bien.
Et il a pris un engagement sérieux.
Par ailleurs, il était disposé à quitter une vie très rentable. Et il n'est pas parti sur la pointe des pieds. Il a donné une fête pour avoir l'occasion de présenter ses anciens amis à son nouveau maître. Je crois que Matthieu était un homme modeste. Je pense qu'il était modeste parce qu'en donnant le récit de plusieurs événements de grande importance, comme il le fait tout au long de son rapport, il ne fait à aucun moment référence à lui-même, c'est-à-dire à la première personne. Il parle toujours de Matthieu à la troisième personne, comme il le ferait de n'importe qui d'autre, et il ne s'accorde aucun crédit particulier pour quoi que ce soit. Il ne revendique même jamais, à un quelconque endroit, être l'auteur de tout cet évangile. La raison pour laquelle nous savons que c'est lui qui l'a écrit, c'est parce que tous les premiers manuscrits portaient son nom joint au titre, et les pères de l'Église primitive s'accordaient tous à affirmer que ceci avait bien été écrit par Matthieu. Il s'agit tout simplement d'un des livres du Nouveau Testament dont l'identité de l'auteur est la plus claire. Tout le monde savait que Matthieu avait écrit ceci. Maintenant, nous ne savons pas quand il l'a écrit. Il l'a écrit quelque part entre l'an 50 et l'an 70 après Jésus-Christ, quelque part avant la destruction de Jérusalem. Nous ignorons quand.
Nous ne savons pas pour quelle raison il a écrit ceci,
mais je puis vous l'exprimer dans une affirmation simple. Cet évangile est rédigé pour répéter l'histoire du salut et dans cette histoire démontrer que Jésus est le Christ, le Messie annoncé, le roi des Juifs, qui a été rejeté par les siens, qui a été reçu par les païens et qui un jour reviendra régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est l'évangile, c'est l'histoire du roi qui vient, le roi qui est rejeté et le roi qui reviendra. Tel est le message de Matthieu, très simple. Et laissez-moi juste parler des trois tendances et courants majeurs de ce récit particulier. Premièrement, Matthieu traite du roi révélé. La première chose que vous remarquez dans l'évangile de Matthieu, c'est que Christ s'est présenté comme un roi. Il n'y a pas la moindre tergiversation à ce sujet. La personne de Jésus est peinte en des couleurs royales. Son arbre généalogique est remonté à partir d'une lignée royale, et nous verrons cela ce soir. Sa naissance est redoutée par un roi rival. Les mages offrent leurs présents royaux. Son héros, Jean-Baptiste, déclare que son royaume est proche. Et même dans sa tentation, on retrouve sa royauté, parce que la tentation elle-même atteint un point ultime lorsque Satan lui offre les royaumes de la terre, reconnaissant ainsi qu'il a le droit de régner. Son formidable message sur la montagne constituait le manifeste d'un roi, édictant les lois du royaume. Ses miracles constituaient ses pouvoirs royaux. Ses paraboles étaient appelées les mystères du royaume. Il a été salué comme étant le fils de David. Il revendique la liberté de rendre hommage au roi de la terre parce qu'il est lui-même un enfant de roi. Il fait une entrée royale à Jérusalem et réclame la souveraineté racontant à son propre sujet l'histoire des noces d'un fils de roi. Et tandis qu'il était confronté à la croix, il a prédit son règne futur. Il a déclaré avoir autorité sur les anges, si bien qu'il aurait pu en appeler une légion pour sa défense. Ses dernières paroles sont une revendication souveraine et un commandement royal, tandis qu'il déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, Matthieu le présente donc comme un roi révélé. » Le livre revêt ensuite un autre caractère, le roi rejeté. Et tandis que nous étudions l'évangile de Matthieu, nous verrons que les gens vers lesquels il est venu et dont il a recherché la soumission ne la lui ont jamais accordée, et il a été un roi rejeté. Matthieu constitue un évangile de rejet. Aucun autre évangile n'a autant à dire sur sa souveraineté, et aucun autre évangile n'a autant de choses à dire sur son rejet en tant que roi. L'ombre du rejet ne s'éloigne jamais de l'évangile selon Matthieu. Avant sa naissance, sa mère a risqué d'être rejetée par Joseph. À sa naissance, Jérusalem a été tourmentée, et Hérode en a eu après sa vie. Sur les plaines de Bethléem, on n'entend aucune chorale d'anges, mais plutôt les pleurs et les angoisses des mères au moment où leurs enfants sont massacrés. On l'a amené au loin pour préserver sa vie, et il a passé 30 ans dans l'obscurité d'un petit village sans réputation, appelé Nazareth. Son précurseur a été mis dans un cachot et décapité en fin de compte. Il n'avait nulle part où poser sa propre tête. Ses paraboles laissaient entendre que son royaume ne serait pas accepté de son vivant. Et même dans sa mort, il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aucun voleur repentant ne prie. Aucune parole de sympathie humaine n'est prononcée. Ceux qui passent par là, en revanche, l'insultent et se moquent. Et on engage même des soldats pour aller jusqu'à mentir au sujet de sa résurrection. Dans aucun autre évangile, l'attachement à Christ n'est aussi amer que dans Matthieu, du début à la fin. Ainsi donc, le roi est révélé et le roi est rejeté.
mais Matthieu présente également le fait que le roi revient. Et aucun autre évangile ne met autant l'accent sur la seconde venue comme l'évangile d'après Matthieu. Et donc, dans un sens, c'est un évangile de triomphe. Quand vous arrivez au chapitre 24 et 25, et que vous entendez qu'il viendra dans les nuées, avec une grande gloire, alors vous savez qu'il finira par régner. C'est donc un évangile de révélation d'un roi, de rejet du roi, de retour du roi. Mais pour démarrer, regardons le chapitre 1. Matthieu commence par présenter le roi. Le roi est révélé, et tout commence par l'arbre généalogique de Jésus. Si un roi doit être salué comme tel, s'il doit être cru en tant que roi, s'il doit avoir une quelconque crédibilité, si qui que ce soit doit accepter le fait qu'il est, effectivement un roi, alors cela doit commencer avec la preuve qu'il descend bien d'une lignée royale. Il y avait une lignée royale en Israël, et elle passait par David. Dans 2 Samuel 7, Dieu a déclaré à travers le prophète Nathan à David que ce serait de ses reins que sortirait un roi, qui régnerait sur Israël, et établirait un royaume éternel. Cette promesse ne s'est jamais accomplie en Salomon, et ils ont donc attendu encore et encore qu'il naisse quelqu'un de la descendance de David pour accomplir cette prophétie. Si donc Jésus doit être le roi, il doit être établi qu'il a le droit de régner parce qu'il est issu de la généalogie d'une royauté. C'est exactement ce que présentent les versets 1 à 17. Lisons-les, regardez-les. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Phares et Zara. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadad. Aminadad engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Éliakim. Éliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Achim. Achim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Nous allons nous arrêter là. Je ne vais pas vous laisser vous en aller tout de suite, parce que vous n'avez encore aucune information pratique. Vous dites, mais pourquoi alors avons-nous tout ceci? Eh bien, laissez-moi vous dire que pour commencer, les Juifs tenaient fort à leur origine. Et si quelqu'un devait leur être présenté comme roi, il était absolument indispensable qu'il ait une généalogie sérieuse pour l'attester. Ceci a toujours et est toujours important pour les Juifs. Par exemple, après la conquête de Canaan, vous vous rappelez lorsqu'ils sont entrés dans le territoire de Canaan et qu'ils ont pris possession de la terre où coulait le lait et le miel, comme Dieu le leur avait promis à leur sortie d'Égypte. Après la conquête du pays de Canaan, il s'est avéré essentiel de déterminer l'attribut de chaque individu, ainsi que son héritage, pour que chacun puisse savoir où il devait vivre, étant donné que le territoire avait été réparti parmi les diverses tribus. Et d'après Nombre, chapitre 26 et 35, chacun devait connaître sa tribu. On devait connaître sa famille, et on devait connaître la maison de son père pour pouvoir s'identifier au bon emplacement dans le pays. Une généalogie sûre était donc très importante. L'identification tribale était essentielle. dans certaines circonstances et d'après le livre de Ruth, chapitres 3 et 4. Nous n'allons pas prendre le temps de regarder tout cela. Cependant, d'après Ruth, chapitres 3 et 4, dans certaines circonstances, le transfert de propriété exigeait une connaissance précise de l'arbre généalogique familial. Dieu voulait que le terrain d'une tribu reste la propriété de la tribu concernée, et il fallait donc une identification reconnue pour pouvoir faire certaines transactions à caractère foncier. Une autre chose intéressante nous est indiquée dans Esdras 2. Il me semble que c'est le verset 62. Je pense que c'est loin, à la fin d'Esdras 2. Vous pouvez le trouver vous-même. Mais il nous est dit à la fin d'Esdras. Je vais voir si j'arrive à repérer le verset, verset 62. Ceux-là cherchèrent leur registre en recherchant leur généalogie, version Martin. Et ce que cela signifie, c'est qu'après la captivité babylonienne, lorsque le peuple a commencé à revenir en Israël, vous vous souvenez, à la fin des 70 ans, ils ont commencé à revenir en masse. Plusieurs d'entre eux disaient être prêtres et revendiquaient l'appartenance à la tribu de Lévi. Et vous savez que Dieu était très, très exigeant au sujet de l'identité du prêtre. Vous le savez, quiconque tentait de jouer le rôle de sacrificateur alors qu'il n'en était pas un, courait un très grand danger. Ainsi donc, quand ces gens sont revenus et qu'ils ont essayé de revendiquer le droit au sacerdoce, ils ont dû en donner la preuve sur la base, il est dit dans Esdras 2 au verset 62, de leur généalogie. Et s'ils n'y étaient pas, alors ils étaient écartés de la prêtrise. Ils avaient donc besoin de connaître leur famille pour bénéficier d'un changement de terrain pour leur emplacement tribal et leur identification en tant que sacrificateurs à leur retour de captivité. Et en fait, c'est plus intéressant de se rappeler, et je suis convaincu que vous vous souvenez de ceci, que même au tout début du Nouveau Testament, qu'est-ce que Joseph et Marie font? Ils vont se faire enregistrer en fonction de leurs ancêtres au lieu indiqué, parce que les gens étaient encore recensés de cette manière. Et dans Luc chapitre 2, dans les quatre premiers versets, il nous est tout simplement dit cela. Je vais vous le lire très rapidement. Or, il arriva en ces jours-là qu'un édit fut publié de la part de César Auguste, portant que tout le monde fût enregistré. Et cette première description fut faite lorsque Cinérius avait le gouvernement de Syrie. Ainsi tous allaient pour être mis par écrit, chacun dans sa ville. Et Joseph monta de Galilée en Judée, savoir de la ville de Nazareth, en la cité de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de qui ? Et de la famille de David. Vous voyez, ces identifications existaient encore au moment de la naissance de Jésus-Christ. D'ailleurs, les écrits de Josephus, l'historien antique, soutiennent l'usage des dossiers ancestraux comme partie intégrante de la culture juive autour de l'époque de Jésus-Christ. C'était donc une chose très courante. Les Juifs tenaient vraiment à ce que tout le monde ait son identité familiale pour déterminer leur appartenance avec précision. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a Paul qui dit quelque chose de ce genre. Romains 11, verset 1. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? À Dieu ne plaise, car je suis aussi israélite, de la postérité d'Abraham. De la tribu de qui? De la tribu de Benjamin. Vous voyez, il était encore en train de décliner son origine. C'était très important pour les Juifs. Et c'est pour cette raison que vous voyez qu'il y a eu au moins 50 généalogies dans l'Ancien Testament. Il y avait une raison à cela. Non seulement la lignée royale, la lignée sacerdotale, mais aussi en termes de transfert de propriété, et ainsi de suite. Tout cela est différent aujourd'hui. Les Juifs modernes ne le savent pas. Ils n'ont absolument, observez ceci, ils n'ont absolument aucun enregistrement de leur ascendance tribale aujourd'hui. Rien du tout. Ils ne peuvent pas la retrouver. Cela a complètement disparu. Je veux dire que cela s'est complètement évaporé. Aucun des Juifs contemporains ne saurait prouver qu'il descend de David. Je veux cependant que vous sachiez quelque chose. Si quelqu'un venait à prétendre être le Messie, il ne serait pas en mesure de le prouver. Et pourtant, certains Juifs orthodoxes attendent encore la venue du Messie. Le problème, cependant, c'est qu'il n'y aura jamais aucun moyen généalogique de le prouver. Ce qui permet de dire ceci. Jésus-Christ est le dernier prétendant vérifiable au trône de David. Si lui n'est pas le Messie, alors personne d'autre ne pourra jamais faire une revendication crédible à ce sujet. Point final. Maintenant, nous examinons cette généalogie de Matthieu dans les grandes lignes. Nous n'allons pas entrer dans les détails pour vous raconter l'histoire de chaque nom. Détendez-vous donc. Toutefois, dans cette généalogie, nous avons ce qu'on appelle un classement descendant qui conduit à Jésus en passant par Joseph. Un classement descendant. Il y a une descendance directe de David et d'Abraham pour parvenir à Jésus en passant par Joseph. Dans le Nouveau Testament, la généalogie de Jésus est également enregistrée au 3e chapitre de Luc. Vous n'avez pas besoin de vous y rendre. Je vais me contenter d'y faire allusion. Toutefois, la généalogie qui se trouve dans Luc est à l'envers. Il s'agit d'une généalogie ascendante. Elle commence avec Jésus et remonte en passant par Marie. Ainsi donc, vous avez ici une généalogie qui descend et passe par Joseph. Et là-bas, vous avez plutôt une généalogie qui remonte en arrière en passant par Marie. L'une commence avec Jésus, tandis que l'autre se termine par Jésus. Et cela va dans les deux sens, et se termine de la même manière. C'est un peu comme si l'Esprit de Dieu disait « Peu importe comment vous le découpez, braves gens, il s'agit bien de lui. Il existe d'autres différences entre celle-ci et la généalogie de Luc. » Matthieu montre ce qui est légal. Observez ceci. Vous allez devoir le comprendre. Matthieu montre la descendance légale de Jésus en tant que roi d'Israël. Luc présente la filiation linéaire. Autrement dit, Matthieu nous montre la lignée royale, tandis que Luc nous présente la lignée de sang. Vous dites, quelle est la différence? Voici la différence. La lignée royale, observée à présent. La lignée royale passait toujours par quel parent? Le père. Cela venait toujours du père. Jésus n'avait cependant aucun père humain. Ainsi donc, pour avoir la lignée de sang qui permettait de régner, il aurait fallu qu'il soit également un descendant de David du côté de sa mère. Comprenez-vous cela? Par conséquent, la lignée de Marie correspond également à la lignée de David. Ainsi, de Marie vient la lignée de David, et à travers Joseph également vient la lignée de David. À travers Marie, il a le sang de David, et à travers Joseph, il a le droit à la souveraineté qui appartient à David. Même si Joseph n'était pas son père biologique, il l'était sur le plan légal. Restez avec moi. Nous allons le voir d'une autre façon. Matthieu suit la lignée royale par David et Salomon, fils de David. Matthieu la suit tout le long jusqu'en bas. Il arrive à David, et la ligne royale passe par Salomon. Mais David avait un autre fils. Il en avait plusieurs. Cet autre fils était Nathan. Et la lignée de Marie est venue par Nathan. Donc, ce que vous avez est une ligne descendant par David et qui va de cette façon-ci par Salomon, et celle-là par Nathan. Par Nathan, vous parvenez à Marie et par Salomon, vous arrivez à Joseph. Tous deux de la semence de David. Tous deux avaient du sang royal. Ainsi, par la lignée de sang, il est issu de David. Sur le plan légal et en tant qu'héritier au trône de David, il descend de David aussi bien par sa mère que par son père. Il est véritablement descendant de David à travers Marie. Il est l'héritier légitime de David à travers Joseph. Regardez au verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Cela n'est-il pas intéressant? Qu'est-ce que cela ne dit pas? Le père de Jésus, Joseph, n'était pas le père de Jésus humainement. Il était l'époux de Marie. La Bible n'appelle jamais Joseph le père de Jésus. En passant, regardez à nouveau le verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. De laquelle est au féminin en grec. Il n'est pas né de Joseph. Il est né de Marie. Il était légalement l'enfant de Joseph, parce que lorsqu'on était adopté dans une famille, on en était un enfant légitime, avec tous les droits et privilèges que cela implique. Il était l'enfant légitime de Joseph. Il était l'enfant de Marie de par sa lignée et de par son sang. Et donc, de toute manière, Jésus-Christ avait le droit de régner. C'est le Père qui a donné la lignée royale. La mère a donné le sang royal à Jésus. C'est intéressant que dans Luc, dans sa généalogie, verset 23, du chapitre 3, il est dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, et ainsi de suite. Tout le monde le considérait, observez à présent ceci. Bien qu'il n'ait pas été réellement le fils de Joseph, il était considéré comme tel par tout le monde. » Il n'était pas le fils biologique de Joseph, mais il était considéré par tout le monde comme étant le fils de Joseph. Cependant, beaucoup de gens ont pensé, au moins au moment de sa naissance, qu'il était le fils d'une affaire illicite. Ils l'appelaient cependant le fils de Joseph, parce que Joseph s'était présenté comme son père légal. Il n'y a vraiment jamais eu de question véritable à ce sujet. En fait, tout au long de sa vie, il a été reconnu comme le fils de Joseph. Il n'y a jamais eu le moindre débat, parce qu'ils acceptaient ce qui équivaut à une adoption sur le plan légal, avec tous les droits et avantages impliqués. Dans Luc 4, au verset 22, il rendait témoignage, et il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Il le reconnaissait donc comme tel. Parfait, écoutez à présent. Un accomplissement parfait, regardez au verset 11. Et Josias, j'aimerais extraire une pensée ici qui est très fascinante. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, observez ceci. Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez quelque chose de très intéressant. Nous lisons ce nom, Jéconias. Josias engendra Jéconias, et Jéconias engendra un tel et un tel. Il y a cependant quelque chose de très intéressant. Vous rappelez-vous de qui est cette lignée de Luc ou Matthieu? Joseph. C'est la filiation de Joseph, n'est-ce pas? Et j'aimerais que vous observiez quelque chose. Dans Jérémie 22, verset 30. Écoutez tout simplement et notez-le. Jérémie 22, verset 30. Voici ce qui est dit. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Et l'homme dont il est question est Jéconias, ce même homme, un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Avez-vous saisi cela? Telle était la malédiction qui reposait sur Jéconias dans Jérémie 22, verset 30. Écoutez-moi. Si Jésus avait été le véritable fils de Joseph, il n'aurait jamais pu s'asseoir sur le trône de David. Avez-vous saisi cela? Il aurait été sous la malédiction. Et en même temps, il avait besoin d'être le fils légitime de Joseph pour y avoir droit. Alors Dieu a dû développer un plan pour qu'il soit un héritier légitime au trône, sans pour autant être d'une descendance de David qui passerait par Jéconias. Et Dieu l'a donc fait à travers la naissance virginale, contournant la véritable lignée de sang de Jéconias tout en conservant le droit à la souveraineté pour régner et descendre par le sang du côté de Marie. C'est quelque chose de fantastique, n'est-ce pas? La manière dont Dieu a préservé chaque petit détail, et la naissance par une vierge a résolu le problème, voyez-vous. La raison d'être de la généalogie est d'attester qu'il est bien celui qui a le droit de régner. Cela pourrait me prendre beaucoup de temps pour en déchiffrer la signification. Mais il suffisait aux Juifs de le lire pour comprendre le message. Ils connaissaient leur Ancien Testament. Ils étaient au courant pour la malédiction de Jéconias. Ils connaissaient cette lignée. Ils connaissaient leur descendance. Matthieu établit le fait qu'il a le droit d'être roi. Retournons au verset 1, un instant. Tout ceci n'est encore que l'introduction. Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le livre Biblos, cela signifie un livre, ou encore une liste de noms. Ici, cela signifie une liste de noms, une archive. Le livre de la Genèseos, Genèse, le commencement. Le livre du commencement, au sujet de Jésus-Christ. Voici l'histoire de comment Jésus est venu à exister. Voici les archives de ses origines, les archives de ses ancêtres. Jésus Christos. Jésus est l'équivalent grec de Yeshua de l'Ancien Testament, ou Jehoshua, qui signifie tout simplement Jéhovah sauve. Cela allait être son nom. Matthieu 1, verset 21. Il est dit, « Et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui croit, qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Yeshua, Jéhovah sauve. Et la forme contractée insiste sur l'action verbale. Ensuite, il y a Christos, qui veut dire celui qui est oint. Il était oint en tant que prophète. Il était oint comme sacrificateur. Et il était également oint comme quoi? Comme un roi. Et vous avez donc ici un livre sur les origines de celui qui allait sauver, qui était oint comme prophète, sacrificateur et roi. Oh, c'était si important de le savoir. Et notre bien-aimé Seigneur Jésus, pur et sans tache, exempt de péché, a été ridiculisé, diffamé, calomnié. Et toujours, toujours, il y a des insinuations et des remarques au sujet de ses origines. Au chapitre 13 de Matthieu, dans le verset 54, nous lisons « Et étant venus dans son pays, il les enseignait dans leur synagogue, en sorte qu'ils étaient étonnés et disaient « D'où viennent à celui-ci cette sagesse et ces miracles ?» Matthieu 13, au verset 54. Où a-t-il été chercher cette capacité? Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques et Joche et Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes auprès de nous? D'où viennent donc à celui-ci toutes ces choses? Et ils étaient scandalisés en lui. Il n'a aucun droit à ce genre de choses. il est issu d'un petit groupe à Nazareth. Au chapitre 7 de Jean, on trouve à nouveau ce genre de raillerie au sujet de ses origines. Jean 7 au verset 27. Jésus se rend à la fête des tabernacles, et les Juifs s'énervent contre lui à cause de ce qu'il dit. Il est dit au verset 27. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Écoutez, nous connaissons ce Jésus. Je veux dire qu'il ne s'agit certainement pas du Christ. Nous savons d'où il est, lui. C'est un paysan de Nazareth, là-haut sur la colline. Je veux dire qu'il était impensable que le Messie vienne d'ailleurs que Jérusalem. Une telle pensée était intolérable. Il était un incognito venu de nulle part. Et au verset 40, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. C'est le prophète au sujet duquel Moïse a prophétisé dans le Pentateuch par le passé. Voici le prophète. » D'autres disaient « C'est le Christ. » Cependant, certains disaient « Le Christ sortir de Galilée, vous voulez rire. » Au chapitre 8 et au verset 41, « Vous faites les œuvres de votre père, dit-il aux pharisiens, les dirigeants juifs. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent donc, « Nous ne sommes pas nés de la fornication, dans la version Darby. Que pensez-vous qu'ils essayaient de dire par là ? C'est de la médisance. Nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un père, Dieu. » Verset 48. Les Juifs répondirent et lui dirent, « Ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain et que tu as un démon ? Tu n'es qu'un démoniaque, issu de la fornication, qui est venu d'une ville de rien du tout et d'une famille obscure. Nous n'avons rien à voir avec une quelconque de tes références messianiques. » Ainsi, Matthieu, vous voyez, regarde au-delà de tout ceci, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il écrit le livre des origines de Jésus-Christ, afin qu'on n'ait jamais besoin de se demander d'où il vient. Maintenant, il y a une importance pour cette généalogie dont j'aimerais parler pour la dernière fois où nous sommes ensemble ce soir. Il y a ici une insistance qui me passionne tout simplement. Tout bonnement, c'est tissé dans cette liste d'une telle manière que lorsque j'ai commencé à l'étudier, que je cherchais le Seigneur en disant « Seigneur, que veux-tu que je dise à ce sujet ? Comment vais-je m'y prendre ? Comment rattacher tout cela ensemble, ces noms ? Que vais-je dire ?» J'ai alors commencé à penser au fait que Jésus-Christ était un roi. Cependant, il n'était pas un roi comme n'importe quel autre roi. Il n'était pas un roi qui gouvernait par la loi. Il était un roi qui gouvernait par quoi ? Par la grâce. Et j'ai commencé à fouiller la généalogie pour voir si je parvenais à y trouver la grâce. Et où la grâce a tout simplement commencé à couler de partout, partout. Cela s'est répandu partout sur mon bureau. La grâce était partout. C'est un roi de grâce. Et vous savez, y compris dans ceci, Dieu ne peut même pas présenter les accréditations royales de Jésus sans répandre la grâce partout sur ceux qui les lisent. C'est partout. Il est un roi. Mais la plupart des rois gouvernent avec une main de fer. La plupart des rois règnent par la loi. La plupart des rois ne savent absolument rien au sujet de la grâce. Celui-ci, si. Oh, quel roi miséricordieux ! Je vois cela dans quatre choses. Vous avez peut-être un plan d'étude avec vous. Vous pouvez voir comment cela se déroule, comme le bourgeonnement d'une belle fleur. Premièrement, je vois le roi de grâce dans le choix d'une seule femme. Le choix d'une seule femme. La première chose qui m'a frappé, c'est lorsque je lisais le verset 16, et qu'il est dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » Et j'ai pensé en moi-même « Oh, voilà la grâce. La grâce à cette seule femme. Cette seule petite femme, Marie, est devenue la mère du Messie, la mère du Fils de Dieu. Marie, comme Luc l'enregistre. L'enfant d'Élie, Marie. Personne ne connaissait Marie avant cela. Je ne veux pas trop vous bousculer. » Mais je vais vous dire quelque chose. Marie était une pécheresse. Marie était une pécheresse. Vous dites, eh bien, je suis catholique, je ne le crois pas. Eh bien, la Bible nous dit que Marie était une pécheresse. Elle était comme tout le monde. Elle était comme tous les autres hommes et comme toutes les autres femmes. Je n'insinue pas qu'elle ait été pire que qui que soit d'autre. Elle était probablement meilleure que beaucoup et sans aucun doute une personne profondément pieuse et religieuse. Cependant, elle était une pécheresse qui avait besoin d'un sauveur. Et le Seigneur Jésus-Christ a dû être un sauveur pour elle, autant qu'il était son fils. Et pourtant, Dieu dans sa merveilleuse et mystérieuse grâce l'a choisi. Vous savez quoi ? Dieu n'était pas obligé de le faire. Mais il a choisi Marie. Quelle grâce ! Comme vous savez, l'Église catholique romaine a élevé Marie à un niveau d'une incroyable hauteur. Je suis certain que Marie serait en colère si elle l'apprenait. Je suis sûr que tout cela ne l'ennuie pas maintenant qu'elle est au ciel. Mais ils disent que Marie est sans péché, que Marie a conservé une virginité perpétuelle. Ce qui est difficile, puisque les gens récitaient tous les noms de ses enfants. Ils disent que Marie est co-rédemptrice avec Christ. Elle est son égale dans notre salut. Elle est co-médiatrice. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul médiateur entre Dieu et l'homme, mais plutôt deux, Marie et Jésus. Qu'elle est corporellement montée au ciel et n'est jamais morte parce qu'elle était sans péché. Et par conséquent, elle ne pouvait pas mourir. Il transpose littéralement en Marie tout ce qui est vrai au sujet du Christ. Malheureusement, rien de tout cela n'est vrai à propos de Marie. Bien-aimé, laissez-moi vous dire ceci. Marie n'était qu'une femme pécheresse, comme toutes les autres femmes, et elle avait besoin d'un sauveur. Dans Marc 3, au verset 31, il nous est dit « Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Jésus se trouvait à l'intérieur en train d'enseigner. La foule était assise autour de lui. » Et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. » En d'autres termes, « C'est vous ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus a minimisé la place de Marie. Marie était un visage dans la foule, c'est tout. Marie n'était personne quant à cette question. Marie devait emprunter la même voie que tout le monde pour être en relation avec Jésus-Christ. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'elle était sa mère. Il devait faire la volonté du Père. Voyez-vous, c'est comme ça que ça devait être. Et dans Luc 11, au verset 28, il est dit ceci. Et il répondit, « C'est grandiose. » Oui, plutôt. Eh bien, retournons au verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule. Jésus est en train de parler ici. Une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Cette femme aurait pu faire une bonne catholique romaine. « Bénie est Marie. » Mais Jésus répondit « Oui, mais surtout, c'est l'idée ici, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Vous voyez, il a identifié le vrai problème, n'est-ce pas? Ce n'était rien de sanctifiant au sujet de Marie. Le problème, c'était l'obéissance à sa parole, et Marie en avait besoin, autant que qui que ce soit d'autre. Marie le savait, elle le savait. Dans Luc 1, verset 28, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Vous savez ce qui est écrit dans la version grecque. « Toi qui es pleine de grâce. » Marie avait besoin de grâce, voyez-vous cela. Et la grâce, c'est quel genre de faveur? Une faveur non méritée qui est accordée aux pécheurs. Et ensuite, lorsqu'elle a prié, elle a dit « Mon âme exalte le Seigneur » Luc 1, verset 46. « Et mon esprit, observez ceci, se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Marie le savait pertinemment. Elle savait. Elle savait. Attention, Marie était une femme merveilleuse, je ne dirais pas le contraire. Elle était probablement très pieuse, une femme pure, vierge. Cependant, elle était pécheresse et avait besoin d'un sauveur. Et voyez-vous la grâce de Dieu en ce qu'il a choisi une pécheresse pour être sa propre mère. Deuxièmement, nous voyons l'évangile de grâce dans le choix d'une femme. Nous le voyons également dans la descendance de deux hommes, la semence de deux hommes. Regardez le verset 1. Ceci est fabuleux. Verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Et quel est le deuxième? Fils d'Abraham. Laissez-moi vous poser une question simple. David était-il pécheur? Abraham était-il pécheur? Dieu a-t-il fait preuve de grâce envers eux? Oui. Imaginez David, David qui a péché de manière civile avec Bathsheba et qui a fait tuer son mari. David, le polygame. David, on pourrait presque dire le perverti sexuel, sauf si peut-être le mot est trop fort. David qui était sexuellement tourmenté. David un père pourri. David, qui a tué un grand nombre de personnes, tant et si bien que ses mains étaient beaucoup trop couvertes de sang pour construire le temple de Dieu. Et Abraham. Abraham a menti au sujet de sa femme en Égypte, et les a tous les deux couverts de honte. Abraham, qui a douté de Dieu. Abraham, qui a commis l'adultère avec Agar. Abraham, une fois de plus, à Guérar. a menti au sujet de Sarah. Il a donné au roi, comme si elle avait été sa sœur, deux pécheurs, et leur semence fut le Fils de Dieu. C'est la grâce. Dieu a utilisé ces deux-là, l'un pour être le père de la nation du Messie, et l'autre pour servir de père à la lignée royale. Jésus est fils de David, fils d'Abraham. Sa connexion au peuple hébreu est raciale et royale. Elle est d'abord royale, c'est pour cela que David vient en premier. C'est le point que Matthieu veut établir. Et, soit dit en passant, la grâce a été étendue à chacun de ces hommes, même dans leur descendance. Pensez-y. Vous dites, eh bien David a fait des progrès, tout comme Abraham. Très bien, mais qu'en est-il de leurs descendants? Qu'en est-il de Salomon et d'Isaac? Par exemple, le fils de David, sur lequel David comptait pour la prochaine étape dans ce merveilleux accomplissement, s'est avéré être une terrible, terrible tragédie. Son histoire constitue un échec désastreux. En dépit de sa nature paisible, malgré sa sagesse inégalée, Salomon a mené une vie de stupidité et de folie épouvantable. Il a semé des graines de perturbation en épousant plusieurs femmes étrangères. Il a dépassé son père de loin en ayant des centaines de femmes et de concubines qui ont détourné son cœur de l'Éternel à ce que dit la Bible. Le fils de la chair de David était une déception. Le fils de la chair de David a brisé l'unité d'Israël. Et Dieu aurait alors eu tous les droits d'annuler purement et simplement sa promesse. Pourtant, il ne l'a pas fait. Un jour, il est venu, un des plus grands fils de David, le Seigneur Jésus-Christ, qui a surmonté les échecs de David et a triomphé des échecs de Salomon, avec une sagesse infinie. Il bâtira un temple qui ne sera jamais détruit. Ensuite, il y a eu le fils d'Abraham, le fils sur lequel Abraham comptait pour l'accomplissement de la formidable promesse de Dieu. Le fils qui est né quand Abraham avait 100 ans. Le fils sur lequel reposaient ses espoirs. Isaac, son nom signifiait d'ailleurs rire, à cause de la joie de leur cœur au moment de sa naissance. Et à travers lui devait arriver la semence qui allait porter l'entreprise de Dieu. Mais cette semence a failli. Israël a échoué, et Dieu l'a mis de côté pour ouvrir un nouveau canal, l'Église. Et l'histoire d'Isaac et de sa descendance est une histoire de faiblesse, une histoire d'échec, une histoire d'apostasie, une histoire d'idolâtrie, une histoire de péché. Cependant, Jésus-Christ, l'ultime fils d'Abraham, est venu accomplir tout ce que Isaac n'a pu faire, et de lui jaillira une descendance qui sera aussi nombreuse que le sable de la mer, et aussi abondante que les étoiles dans le ciel. Et ils accompliront les desseins de Dieu pour toujours. Ainsi Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, est venu vaincre les échecs de ces deux lignées et de leur descendance, afin d'accomplir ce qu'ils n'ont jamais pu accomplir. Toutefois, il est venu par la filiation de deux pécheurs. C'est la grâce, c'est la grâce. La grâce de Dieu est vue dans une femme et deux hommes. Troisièmement, nous voyons la grâce de Dieu dans l'histoire de trois ères, l'histoire de trois époques. Observez maintenant ceci, c'est le plus fascinant. Au verset 17, regardez. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Vous l'avez remarqué? Trois ères. Une femme, deux hommes, trois époques. Maintenant, la première ère est la période qu'il mentionne d'Abraham à David. Il s'agit de l'époque des patriarches. C'est la période d'Abraham et d'Isaac, et de Jacob et de Joseph. C'est la période des patriarches et la période des juges. C'est à cette époque que vous avez les grands patriarches et les grands juges comme Déborah et Barak, Samson et Jephté et tous les autres. C'est cette grande époque d'héroïsme qui a fait la célébrité d'Israël. Vous avez même des gens comme Ruth et des personnes comme Jessé, le père de David. Ah, c'était une période de grandeur. La deuxième ère est celle qui va de David à la déportation de Babylone. Vous savez ce qui est arrivé. C'est une période de déclin. La première période est une époque d'ascendance alors qu'Israël sort de l'inexistence et du néant. Au temps d'Abraham, à la célébrité du fait de son grand héroïsme, tandis que les juges le mènent de victoire en victoire. La seconde période est une période de monarchie. Dès que la monarchie est arrivée avec Saül, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Les choses ont commencé à se détériorer. Et à partir de David et dans la suite, vous avez les jours glorieux avec Salomon. Après Salomon, cependant, c'est tragédie sur tragédie. Oh, de temps à autre, on a une petite lueur avec un Josaphat. Dans la généalogie, vous avez un petit aperçu d'Ézéchias. Vous avez une petite lueur d'un Josias. Ils étaient bons et pieux. Mais ce qui semble dominer, c'est Roboam, Achaz et Manassé, qui étaient des hommes méchants. C'est une période d'apostasie, une période de décadence, qui finalement se termine dans la dévastation et la destruction d'Israël, puis la captivité à Babylone. Vous dites, quelle est la troisième ère? La troisième période va de la captivité à Christ. Savez-vous en quoi cette période consiste? Nous n'en savons rien du tout. C'est une période qui est plongée dans les ténèbres. C'est 600 ans d'absence de date. Des noms que nous ne connaissons même pas. Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Hachim, Eliud, Eliud, Éléazar, Éléazar, Matan, Matan, Jacob. Nous ne connaissons pas ces gens. Ils sont tombés dans les oubliettes. Ainsi, l'histoire d'Israël est l'histoire de trois ères. La généalogie nationale de Jésus est un mélange de tragédie et de gloire. C'est une généalogie qui inclut l'héroïsme et la disgrâce, une qui est faite de renommée et d'obscurité. Cependant, et bien que la nation tout entière périclite jusqu'à ce que finalement ils maudissent et crachent sur leur propre Messie, c'est malgré tout de cette nation que le Messie est issu. Et une fois de plus, je vous dis, c'est une question de miséricorde. Il est le roi miséricordieux. La grâce de Dieu a été accordée comme une évidence en une femme, deux hommes et trois époques dans l'histoire de la nation en déclin. Finalement, la miséricorde de Dieu se manifeste dans l'inclusion de quatre parias. Vous pourriez lire « femme » sur votre plan d'étude, mais je veux signifier par là les parias. Vous voulez entendre quelque chose de fabuleux? Il n'est fait mention que de quatre femmes dans cette généalogie. Seulement quatre femmes. J'aimerais que vous voyiez qui elles sont. La première femme au verset 3. Judas engendra de Tamar, Phares et Zara. Tamar est la première femme qui apparaît dans la généalogie. Ses enfants, Phares et Zara. Que peut-on dire au sujet de Tamar? Quel genre de femme était Tamar? Laissez-moi vous la présenter. À partir de Genèse 38, écoutez. On en informa Tamar et on lui dit « Je n'ai pas vraiment le temps d'aller dans tout ceci, mais Judas prend une épouse pour son fils aîné. Il cherchait une femme pour son aîné, alors il prit cette dame. » On en informa Tamar et on lui dit « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Il s'agit de Judas, son beau-père. » Alors elle ôta ses habits de veuve. Son mari était décédé. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'est pomponnée, vous voyez. Et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm, sur le chemin de Tibna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Il s'agit de toute une autre histoire. Nous n'en parlerons pas maintenant. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi aller vers toi. Viens avec moi à la Casbah. Vous connaissez cette petite ligne ?» Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ? Je veux dire, en guise de prix, je ne fais pas ça pour rien. » Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit « Me donneras-tu un gage ? Peux-tu me donner un chèque pour que je sache, jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit « Quel gage te donnerai-je ? » Elle dit « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Une gentille dame, n'est-ce pas ? Une gentille dame, Tamar, la prostitution et l'inceste, vous dites. D'où Jésus? Qu'est-ce qu'elle fait dans la lignée messianique? Une prostituée? Écoutez, vous voulez entendre le pire. De cette grossesse sont sortis des jumeaux, Phares et Zara. Vous savez ce qui est étonnant à ce sujet? Ce sont les prochaines personnes dans la généalogie de la lignée du Messie. Permettez-moi de vous présenter la prochaine dame. Ça dégringole à partir de là. Verset 5. Salomon engendra Boaz de qui ? Rahab. Quand vous dites Rahab, quels sont les deux prochains mots qui vous viennent à l'esprit ? La prostituée. Rahab était une cananéenne, impure, proscrite, gentille, païenne, adoratrice d'idoles, une mauvaise femme, une prostituée professionnelle. Josué, chapitre 2, nous en parle. Nous n'avons pas besoin d'y aller. Il est dit que les espions, en entrant à Jéricho, sont entrés dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab. C'était une pute, une prostituée. Mais regardez, d'elle est sorti Boaz. Et vous savez quelque chose au sujet de Boaz? Oh, quel homme pieux! Quel homme pieux! Il y a une troisième dame ici. Regardez encore au verset 5. et Boaz a eu un fils du nom d'Obed. Et Boaz était marié à qui ? Ruth. Vous dites, mais Ruth n'était pas une prostituée. Ruth était adorable. Elle n'était pas coupable d'inceste. Non, vous avez raison. Mais vous savez ce qu'était Ruth ? Elle était une païenne. Elle était une paria. Je vous dis autre chose. Genèse 19, verset 30, est réellement intéressant. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Voici Lot dans une caverne avec ses deux propres filles. Voici Lot, deux filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles vont enivrer leur père et essayer d'amener leur père à leur donner une descendance dans l'inceste. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Il était tellement fatigué qu'il ne savait pas ce qui se passait. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père, encore cette nuit-là. C'est tragique. Il n'avait pas assez de force de caractère pour se défendre contre la personne qui l'enivrait. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et voulez-vous savoir qui était Ruth ? Ruth était une Moabite. Elle était le fruit d'un inceste. Elle-même était une femme pure. Elle était l'épouse de Boaz. Et vous voulez entendre quelque chose de merveilleux ? Elle est devenue la grand-mère de David. Cependant, elle était issue d'une tribu qui était coupable d'inceste. En fait, dans Deutéronome 23, verset 3, la nation moabite tout entière est maudite par Dieu. Deutéronome 23, verset 3 maudit littéralement la nation tout entière. Ici, Dieu choisit une femme maudite, née d'une relation incestueuse avec les filles de Juda. En voilà donc des dames intéressantes. Ce sont les seules trois. Il n'en manque plus qu'une. Vous voulez faire la connaissance de la prochaine dame de la généalogie ? La fin du chapitre 6. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Qui est-ce ? Bathsheba. Bathsheba, d'après 2 Samuel, chapitre 11 et chapitre 12. Elle était sur le toit en train de se faire bronzer, et David était là-haut à regarder dans les parages. Il a dit, « Voilà celle que je veux. » Il l'a fait venir, a eu un rapport sexuel avec elle, qui a produit un enfant. C'était une adultère. Il y a deux prostituées, une qui résulte d'un inceste, et une adultère, et elles sont les seules dames qui figurent dans toute la généalogie de Jésus-Christ. Maintenant, quel est, pensez-vous, le message ici ? Dieu est un Dieu de quoi ? De miséricorde. Êtes-vous content à ce sujet ? Moi, je m'en réjouis. La grâce. Et vous savez, je pense que cette généalogie constituait, au sens littéral, un coup de grâce que Matthieu a infligé aux Juifs. Et par là, je veux dire ceux qui sont antagonistes et haineux. Ils étaient légalistes. Mince, ils étaient rigoureux sur la race et la pureté de la lignée, et toutes ces histoires d'héritage. Et ils présentent donc le Messie comme descendant de deux prostituées, une adultère et une résultante d'inceste. Issue d'une nation dont l'histoire était en déclin, issue de deux hommes pécheurs et née d'une femme pécheresse, tel était le roi de tous les rois, qu'il soit connu d'Israël, et de quiconque écoute, que Jésus-Christ est l'ami des pécheurs. Avez-vous saisi cela ? Il est l'ami des pécheurs. Et lui-même a déclaré, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais quoi ? Des pécheurs, à changer d'attitude. » Prions. Père, ce soir, encore un passionnant début pour une grande, grande aventure. Ô Dieu, quelle dévastation cette généalogie constitue lorsqu'on la voit pour ce que tu as voulu qu'elle soit. Tu as tout bonnement donné un coup dans la figure du légalisme, un coup dans le visage du pharisianisme, un coup dans la figure du système de justice acquise par les œuvres. La grâce se dégage tout simplement des pages. C'est toujours aux pécheurs que tu t'es identifié. C'est à eux que tu es venu pour les sauver. Nous nous sentons comme Paul qui a dit « Dont je suis le premier. Merci pour ton salut miséricordieux. Merci d'être un roi miséricordieux qui pardonne. Nous élevons ton nom. Amen. »
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.